Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du Lab. Alors, podcast qui parle d'endodontie
et de management.
Merci Coris. Podcast de confrontation d'idées pour une créativité collective. Bonjour Marc, comment tu vas ?
Salut Mathieu. Eh ben, ce samedi matin très ensoleillé, ça va bien. Je suis venu à vélo.
À vélo ?
Ouais.
T'as eu froid sur ton vélo, Marc ?
Il faisait un peu frais, ouais.
Il faisait un peu frais.
Ouais.
Il y a du vent ?
Il y a du vent, j'avais ma petite paire de gants.
Et il fait frais à Lyon. Hein.
Ça, ouais, ouais. Somme toute agréable.
Et toi, Coris, ça va ?
Bah, franchement, on est arrivé nous hier soir.
Ah oui.
On a passé une bonne soirée. Vous avez une bonne descente, hein, une bonne irrigation.
Et ça fait déjà trois semaines d'affilée que vous venez.
Peut-être qu'on va venir habiter à Lyon.
Ah bah ouais. Il faudrait trouver un endroit où bosser, alors, du coup.
On n'a pas le niveau de l'endodontie pour Lyon, nous. On n'est pas au level.
Ah ouais.
Je pense pas.
Sandrine, ça va?
Ouais, et toi?
T'es en forme?
La forme.
La pêche.
La pêche.
Nickel. Baptiste, Rivori, comment tu vas?
Ça va très bien.
Merci d'être là aujourd'hui encore une fois.
Bah avec plaisir, hein, trois semaines d'affilée aussi. Hein.
Ouais, c'est dur. Hein.
Mais bon, quand il y a Sandrine et Coris, c'est un plaisir de venir.
Déjà, on rigole bien.
On rigole bien.
La semaine, on sera pas là, on va vous manquer peut-être un peu.
Ah, ouais,
c'est
sûr,
c'est sûr. Dirait, hein.
Je pense que nous, on viendra à Paris.
Beaucoup de choses, mais on se marre bien. Bon, alors, aujourd'hui, je vous propose un sujet qui est, somme toute, assez compliqué. Voire même assez...
Mais ce qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est que moi, je sais pas ce que tu vas dire, là, quand même.
Ah oui ?
Bah oui.
Ah oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu vas dire ?
Ah, suspense. Non, mais c'est vrai que il faut que les... à chaque fois qu'on prépare un podcast comme ça, alors des fois, je peux balancer le thème, on va parler à peu près de ça, mais ce n'est pas du tout préparé.
Peut-être qu'ils s'en rendent compte.
Ouais, peut-être.
Mais moi, j'ai dû faire la biblio sur l'obturation, la biblio
sur
le diagnostic pulpaire, la dent immature. J'ai tout refait là, hier soir. Hein.
Ah ouais,
ouais.
Bah, c'est raté parce que c'est pas ce qu'on va aborder.
Mince. Alors
suspense. Non, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je suis un peu perdu. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait une conférence, j'ai fait un peu l'inventaire de tous les systèmes de mise en forme et j'en ai trouvé plus de 150, 160, je ne sais plus exactement le chiffre en tête. D'autant plus que quand je creuse ça, je me rends compte qu'il y a même des boîtes qui fabriquent des instruments pour d'autres boîtes qui utilisent les mêmes process, machin, juste avec des process de fabrication moins chers ou délocalisés, etc. Et en même temps, je suis allé visiter une boîte, bon, pour ne pas la nommer, c'était FKG, mais... où là, je vois des process de fabrication extrêmement rigoureux. Mmh. C'était hallucinant, hein,
d'ailleurs, pour qu'une lime sorte de la... très belle unité de fabrication.
Pour que la lime sorte de l'usine, il y avait 8 contrôles, quoi, de personnes qui contrôlent la qualité de la lime. Enfin, voilà. Et toutes les boîtes sérieuses sont à peu près pareilles, j'imagine. Mmh. En fait, tout ça pour vous dire que quand je vais dans un congrès comme, je sais pas, on peut prendre l'ADF, par exemple, hein, on a l'impression que tous les 10 mètres, on a un stand qui fabrique une lime de mise en forme. Mmh. Eh bien, ma question, elle est simple. Comment vous faites pour vous retrouver dans cette jungle des instruments de mise en forme pour faire votre choix? Vas-y Coris.
Le choix est simple.
Ah oui?
Je change pas trop souvent de lime.
Tu utilises toujours le même.
Voilà.
Tu utilises toujours le même système.
J'ai appris à conduire sur une AX Citroën et j'ai encore une AX Citroën. C'est quasiment ça. Non, je reste.
Attends,
fidèle.
Les AX, c'est celles qui montent et qui descendent.
Non, ça c'était les
CX.
CX ou VX. C'était VX, je crois. C'était les VX.
Ouais.
Mais globalement.
Oui, on parle bien de Citroën sur un podcast d'endo.
Oui, non, mais assez simplement. Moi, j'utilise globalement la même lime depuis beaucoup d'années.
Depuis tes années d'étudiant?
Alors moi j'ai appris sur le gyromatique.
Ah oui.
Ouais, regarde, j'ai plus.
Attends,
j'ai appris le gyromatique. Non, mais j'ai vécu la transformation. Alors, en sixième année, j'ai vécu la transformation de la rotation continue. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à utiliser la rotation continue en cinquième année ou en sixième année.
Donc c'était les profiles à l'époque.
C'était profile et nous surtout Aero 642, ce qui avait une grande appointance à Reims avec Micromega. Donc en gros, c'était gyromatique, tu vois.
Ouais,
on est passé vers le 642 et en sortie de.
C'était Paul Callas, hein, c'est ça qui. Avaient...
Non, Calas, c'est Toulouse.
Non, mais
avec
Micromega.
Oui, tout à fait. Ouais, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Et donc, voilà, j'ai fait 6K2, puis sorti de la fac. C'est vrai que j'ai utilisé les outils que j'avais appris à utiliser à l'hôpital. Et après, j'ai rencontré Sandrine et je me suis mis au protépeur. Non, mais c'est vrai en plus.
T'as dit oui, mais
c'est vrai.
Ah, bah oui. C'est avec toi que je me suis mis au protépeur, ouais, tout à fait.
La seule chose qu'il a changé dans sa vie quand il l'a rencontré.
Non, ce qui était...
Il a changé autre chose aussi ou...
Non, mais finalement, alors, non, mais j'ai testé plein de systèmes. Il y a, on pourra peut-être en parler de plein de systèmes différents que je trouve hyper sympa. Ouais. Mais globalement, moi, je reste quand même sur utiliser globalement souvent le même outil. Genre, c'est rare que je vais utiliser par exemple du XP en dos Shaper, mais je peux utiliser des iFlex, je trouve ça très sympa. Il y a plein de limes que je trouve très sympa de plein de marques, mais quand même, globalement, je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir ses habitudes et de maîtriser ton outil. Voilà, donc je pense qu'on peut, j'ai envie de dire qu'on pourrait presque utiliser tout. Quasiment.
Je sais pas, quasiment, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Baptiste, tu veux réagir ?
J'avais une question à poser à Coris. Est-ce que le fait que le Protaper Gold, par exemple, est arrivé, est-ce que ça a changé dans ta pratique ?
Totalement.
Ou pas ? Ok.
Ah, totalement. Alors, j'ai eu la première phase, les premiers jours, j'ai cassé des instruments, des petits bouts de S1. C'est le petit bout de S1 comme il est tout mou, tac tac. Ah ouais, les premières fois j'ai cassé des petits bouts de S1, ça m'a un peu fatigué. Et après, ouais, c'est quand même des fois j'aimerais bien réavoir des anciennes, genre des non traitées thermiquement pour certains cas. Mais je me suis fait, pareil, je me suis fait.
Oui, voilà. Parce que pour bien comprendre, il y a tous les systèmes qui sont donc marketés ou vendus par les firmes, mais il y a aussi à l'intérieur des systèmes différents alliages.
Tout à fait. Ouais.
Quelqu'un veut rebondir ?
Non, tu parles de quoi ? Tu parles dans un même système. Tu parles
par exemple,
marque,
si on va chez Protaper, il y a des Protaper, les Protaper Gold, etc.
Ouais.
Donc il faut aussi choisir et faire le choix entre les alliages.
T'as même pire. Le Slim Shaper de Zark, t'as différents traitements thermiques dans une même séquence. C'est d'ailleurs, c'est un peu, c'est marrant. Non, mais.
Oui, mais c'est de toute façon, t'as différents instruments dans une même séquence. Donc ça, de toute façon, les instruments sont différents d'une
séquence. Je suis d'accord. Mais
donc
quand
que ce
quand
soit
des...
une question de forme ou de traitement thermique, finalement, on n'est pas.
Alors, comment ça s'est fait pour toi, Sandrine ?
Alors, moi, je rejoins assez ce que dit Coris, et c'est quelque chose qu'on peut dire de façon très générale. Une technique qui est efficace est une technique qu'on a l'habitude de faire. Je pense que ce soit l'instrument, le choix de l'instrument à proprement parler, ou de la technique qu'on utilise, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus performant sur une technique dont on a l'expérience que sur une nouvelle technique. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut jamais changer de technique de sa vie ou jamais changer d'instrument de sa vie. Mais par contre, je recommanderais en tout cas de ne pas changer trop souvent. Donc oui, changer, mais pas trop souvent. Parce que, comme l'a dit très justement Coris, quand on change d'instrument, on ne connaît pas les limites de l'instrument, on ne connaît pas les faiblesses de l'instrument, et forcément,
après,
on a à faire
tester.
Face. Je pense que c'est très bien et qu'il faut, absolument être souple pour tester, mais c'est sûr que la partie où on va tester, où on va changer, elle va être désagréable et elle va nous réserver plein de surprises désagréables. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'un instrument... il faut presque 6 mois ou 1 an pour le connaître. Donc,
une séquence d'instruments.
Une séquence, voilà, un système. Donc finalement, c'est bien de tester, mais c'est difficile de tester. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tout ce qui est sur le marché, je dois l'utiliser l'un après l'autre pendant 6 mois pour après faire mon choix, en vrai, c'est impossible. Donc y a des principes, il y a des choses qu'on va pouvoir choisir. Mais en effet... moi j'ai commencé moi aussi je suis pas toute jeune hein, à la fac j'ai pas appris la rotation continue du tout.
D'accord.
Donc j'ai commencé en cabinet avec du Protaper et après du coup j'ai utilisé Protaper Gold, Protaper Universal, Ultimate. J'utilise aussi d'autres systèmes de d'autres marques comme des instruments de chez FKG ou des...
Il y a quand même plusieurs systèmes chez toi.
Il y a plusieurs systèmes chez moi. Mais encore une fois, le tout venant, aujourd'hui, ça va être du Protaper Ultimate.
Ok. Et toi, Marc, qui est récemment endodontiste, ça a été un choix cornélien. Comment t'as vu ça quand t'étais étudiant ?
Ouais, moi, je rejoins ce que dit Sandrine, c'est-à-dire que... je partage un peu mon expérience par rapport au DU de Bruxelles où on changeait d'instrument tous les 3 mois. Ce qui était intéressant de noter, après 2 années de formation, c'est que globalement mes endos étaient les mêmes avec tous les instruments.
Ça c'est intéressant en fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est pas l'instrument qui va faire la qualité de votre endo ?
Ouais, par contre il faut savoir l'utiliser en effet parce que en passant d'un système à l'autre, on a certains repères de la proprioception, savoir mécaniquement ce qu'on peut demander à la LIM. Il y a des choses qui peuvent changer et en effet, je pense que j'avais tendance à casser plus d'instruments.
Sur les débuts.
Sur les débuts, début d'utilisation.
Peu importe le système.
Voilà, peu importe le système, clairement. Et après, par contre, il y avait une seule notion que je gardais en tête à chaque fois avec tous ces instruments, c'est pour ça que je pense que je suis capable de m'adapter peu importe l'instrument, c'est la notion de diamètre et de conicité, le fait que y a une notion de progressivité dans la mise en forme et on ne peut pas passer un instrument par exemple en 40-04 d'un seul coup dans un canal sans avoir préélargi.
Sans avoir travaillé avant.
Voilà, c'est ça.
D'accord, très bien.
Et puis, ce que je commence à comprendre aussi, c'est qu'en fonction de certaines particularités anatomiques, il y a peut-être certains instruments que je serais amené à ne pas passer dans un canal. Quand on a en effet une courbure sévère, on sait qu'on a un risque de fracture par fatigue cyclique qui est plus important. Et là, on va peut-être être sur un instrument moins conique pour éviter de...
C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut chercher des systèmes où il y ait plein de possibilités.
Ouais, déjà, par exemple, un instrument unique ne pourra pas s'adapter à toutes les situations. Et de toute façon, un instrument unique, en réalité, on va passer déjà des limes de préélargissement avant de passer cet instrument. Donc, c'est pas un instrument unique.
C'est un fantasme, c'est un instrument unique.
En réalité,
dans tous les cas.
Mais c'est bon, les fantasmes.
Oui, bien sûr.
Il y a une réelle séquence, en fait, avant ça.
Avant de les réaliser, il y a quand même pas mal de choses.
Ouais, après, moi, je trouve l'instrument unique... C'est un instrument unique, ce que tu gères. Donc, on va dire un instrument, une seule, c'est genre une séquence à un seul instrument, plutôt.
Oui, bien dit.
Ouais, voilà. Voilà. Ça peut être intéressant pour des omnipraticiens. Genre, il faut remettre toujours dans le contexte de ton activité, je trouve. Ça aussi, c'est deuxième élément.
Est-ce que c'est pas leur vendre aussi un du système rêve. Ouais, bien sûr, parce que.
Ça dépend. Genre, tu vois, genre, moi, par exemple, Sandrine utilise Ultimate. Moi, j'ai essayé un petit peu. Je fais essentiellement que du retraitement. Bah, je trouve que dans le retraitement, l'ultimate, voilà, ça me plaît pas.
Si ton indication est bien posée et que c'est une anatomie classique, pourquoi
ouais.
pas
ouais.
Et dans ce cas-là, tu acceptes que certains cas, tu n'arrives pas à les gérer, tu orientes et vers voilà. des personnes qui ont plus de possibilités.
Donc c'est vrai, ouais, voilà, c'est ça. C'est
très clair ce que
tu marques. C'est exactement ça.
Ça limite aussi.
Et pourquoi pas?
Pourquoi non, pas, ouais, bien sûr. À condition qu'on maîtrise bien aussi les limites. Et quand est-ce qu'on les atteint?
Pour ma part, je n'utilise pas d'instrument, j'ai des séquences instrument unique. Ouais. J'ai un instrument,
Non, ça, Baptiste
je pense qu'il y a pas mal de notions déjà qui ont été développées. Mais je comprends qu'on puisse être dérouté pour le choix d'un instrument quand on sort de la fac ou même quand on décide de revoir un peu son activité. Parce que tous, quand on va dans des congrès, on se rend compte qu'on a plein de stands. On nous présente l'avantage de la rotation continue, l'avantage de la réciprocité.
Mais déjà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi le mouvement de la lime.
Et donc, acheter un nouveau moteur, c'est une nouvelle lime.
Déjà, il faut aussi se protéger de cette surconsommation.
Exactement. Donc, il y a tout le côté marketing qui peut être assez troublant aussi. Et on peut avoir des limes uniques, des systèmes de mise en forme. Ou même certains systèmes de mise en forme qui sont déjà conseillés par le fabricant, d'autres où au contraire c'est au praticien à trouver son système à lui. Donc c'est vrai qu'on va avoir plein de formules différentes et d'autant plus avec des nouvelles arrivées dans leur fabrication avec le traitement thermique. Donc je comprends qu'on puisse vite être perdu par rapport à tout ça. Personnellement, ce qui a vraiment guidé moi mon choix, c'est plus tout le côté scientifique. Donc, on a parlé de l'irrigation la semaine dernière. C'est vrai que pour moi, la mise en forme, elle va avoir un sens aussi, justement, dans cette triade-là. Je vais la réfléchir par rapport à arriver à une certaine préparation apicale. Et donc, quel chemin je vais emprunter pour avoir ce résultat de désinfection, en fait. Et je sais, en tout cas, avec mon expérience, que chaque dent va être un petit peu différente, je vais prendre des chemins différents, donc je vais avoir besoin d'un panel de limes qui va être assez important. Et moi, dans mon choix, c'est vrai que ce qui était plus confortable pour moi, c'est de pouvoir avoir le choix le plus large possible. Donc j'ai regardé chez les différentes marques et je me suis aperçu que j'ai pu identifier la marque en tout cas qui répondait le plus à mon attente.
C'est-à-dire que t'as combien de limes devant toi quand tu travailles ?
Je sais pas, je pense une quinzaine au moins rotative. Hein. Après, il y a des manuels. Au total, il doit y avoir une trentaine au moins de limes, je pense, devant moi.
Et tu utilises combien de limes ? Tu les utilises toutes à chaque
Alors,
fois ?
Alors, il y a certaines situations où je vais pouvoir passer 7-8 limes rotatives et d'autres situations où je vais mettre un seul instrument dans le canal en fonction de la lime de pénétration initiale. Donc, parfois, ça va m'arriver d'utiliser une lime unique, mais qui n'en est pas vraiment une.
J'ai une petite question. Ton assistante, elle s'y retrouve ? Comment ça se passe un petit peu ?
Bah, derrière, ça demande effectivement de la formation en amont. Mais
ça se travaille, quoi. Ça se travaille.
Exactement. Derrière, il y a des codes couleurs, etc. Elle sait exactement...
On pourra
en parler dans un autre podcast, mais ça impose aussi la communication, parce qu'il suffit d'annoncer la lime que l'on veut et que l'assistante nous la donne.
En tout cas, je trouve ça très intéressant cette discussion personnellement, parce que en sortant de la fac, j'avais vraiment cette impression d'être qu'on veuille m'enfermer dans des schémas de préparation.
Sclérosé, on peut dire sclérosé.
Ouais, voilà, qu'on me dise bah non, tu passes le jaune, le rouge, le bleu, machin. Et devoir suivre justement cette recette là. Et aujourd'hui, quand je vois les systèmes qui sortent, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de possibilités. On voit
liberté.
Ouais, exactement. On voit de plus en plus des gros diamètres, des conicités qui sont revues, enfin avec les traitements thermiques. C'est vrai que je trouve ça assez intéressant, quoi. Les autres marques, enfin il y a pas mal de marques qui suivent un peu ce pas, je trouve, de pouvoir avoir des mises en forme.
Et là, sur le marché, il y a beaucoup de limes qui arrivent deux fois moins cher.
Moi, j'ai une histoire par rapport à ça. Hein. Un jour, je travaillais avec une. Je ne citerai pas la marque, c'est pas la peine de me demander. Mais du coup, ils avaient une lime qui terminait en 35,4%. Puis tu sais, dans les filières endodontiques, j'avais passé dans un diamètre 35 parce qu'on était en TP à la SFE. Et il y a une des participantes qui me disait, mais c'est bizarre, je termine en 35, je calibre mon cône en 35. Puis un cône fine, hein, pas un gros cône, et il descendait pas. Et en fait, la lime était à 20. Voilà. Donc, sacrée grosse différence. Donc là, j'écris à la firme en disant, mais c'est quoi, c'est quand même des objets médicaux, etc. Puis alors, ils m'ont dit, ouais, il y a un défaut de fabrication, bon, c'est pas grave. J'ai dit, ah bah si, parce que terminer une mise en forme à 20 ou à 35, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est un vrai problème. Et en fait, en creusant, tu te rends compte qu'ils avaient commencé à délocaliser et à faire des économies sur les chaînes de vérification de fabrication. Ouais, donc aussi, c'est pour ça que les limes arrivent moins chères.
Ouais, je sais pas, ouais. Je connais pas bien.
C'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet pour le coup.
Après, il y a des normes, j'imagine. Il y a quand même des normes ISO, il y a des normes...
De toute façon, les économies, ils les font quelque part.
Si tu ne sais pas la marque, on
ne fait pas. Non, mais bien sûr.
C'était vraiment du low cost de chez low cost ou
non, pas du tout.
C'était une marque vendue.
Non, mais même, c'est pas. Mais du coup, non, pas du tout. Mais ça peut... c'est le danger avec le low cost, c'est le danger avec aussi la perte de. De toute façon, les économies, elles sont faites quelque part, de toute manière.
Ouais, alors aujourd'hui, quand même, avec les dispositifs médicaux, je pense que là, avec les nouvelles lois qui arrivent, on va être quand même globalement rassuré. Voilà. Après, la question du prix, c'est souvent lié quand même à la R&D, au marketing d'une marque aussi. Hein. Aussi le process de fabrication. Ouais. C'est vrai que tu vas visiter FKG, tu sens que il y a de la rigueur de fabrication.
C'est aussi des limes qui sont chères.
C'est pour ça que je cite FKG. C'est des limes qui sont chères.
Toutes les marques sérieuses, Micro, Mega, Dentspline, tout ça, ce sont des limes qui sont chères, enfin qui sont les plus,
tout à fait,
les plus élevées, quoi. Mais qui aussi sont les plus fiables. Enfin, je veux dire, tout le monde, ceux qui bossent avec ça, on a rarement des grosses surprises avec ces procédés de fabrication.
Moi aujourd'hui, je suis content de travailler avec Dentsply. Pour le coup, j'ai zéro conflit d'intérêt. J'ai jamais touché la moindre chose de Dentsply. De toute façon, je pense pas qu'ils voudraient me donner quelque chose parce que je pense qu'ils n'ont aucune valeur depuis un leader pour eux.
Tu veux dire que tu parles librement.
Très librement. Mais c'est vrai que je suis content d'avoir un outil où j'ai une certaine. Alors, je suis rassuré psychologiquement de me dire que c'est une marque connue et que j'utilise pas quelque chose qui est peut-être justement un peu low cost et tout. Après, moi, j'ai l'impression que le low cost est en train d'arriver comme avec des standards de qualité et qu'il va se passer des choses. Globalement, il se passe des choses. Les grosses boîtes vont avoir du mal à tenir. J'arrive, ils vont être obligés de baisser les prix. D'ailleurs, ils baissent un peu. Hein. Tu regardes les, pour tes pergoles, ils baissent pas mal de prix. J'arrive, ils baissent les. On les touche.
Il y a que les marges peut-être diminuer.
Ouais,
en
ouais,
cas,
ouais,
voilà.
Après, il doit avoir certains brevets qui passent dans le domaine public et donc ça permet de s'adapter. Quoi. C'est aussi pour ça, c'est que c'est des firmes qui ne vont pas avoir de recherche et développement, enfin d'innovation, des choses comme ça. Quoi. C'est un but totalement
différent. Non, et pour revenir sur moi, par exemple, dans l'activité, donc j'utilise quand même globalement les mêmes limes. Hein, voilà, donc c'est du FKG pour du RIS ISO 10, soit pour la recherche de MV2, et puis après, essentiellement du ProTaper. Même les manuels, globalement, je reste toujours avec les mêmes. Tu sais, j'ai mes habitudes, hein, c'est pareil con, mais les manuels, il y a le manche, la taille du manche, il y a tout ça, il y a la façon dont elle grippe, et c'est assez impressionnant. Genre, moi, je trouve que j'ai du mal à changer de grippe. Tu vois, voilà.
Tu utilises lesquels?
Mais, hein?
Tu utilises lesquels?
Eh ben alors, sur des cas, c'est du Dancefly. Ouais. Et sur du j'utilise du MME, moi, dans des retraitements.
Okay. Micro-méga.
Du Micro-méga. Ouais, ouais, c'est j'ai,
du coup, voilà. Les C+, et les MME.
Les C+, c'est K, C+, c'est Dancefly. Ouais. K+, c'est Dancefly. Et voilà. Mais, et donc, non, ce que je disais, c'est vrai qu'il faut toujours remettre dans le contexte choix des limes dans son activité. Donc c'est vrai que si tu fais plutôt du retraitement, si tu fais plutôt du traitement initial, mais aussi si tu es spécialiste, excuse-moi, spécialiste n'existe pas, mais exclusif, c'est-à-dire que toi, tu as la capacité à réfléchir chaque mouvement, parce qu'en fait, tu fais ça toute la journée. Mmh. C'est vrai qu'un omnipraticien, il doit faire la prothèse complète, il doit choisir la marque d'implant, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que nous, on nous a appris des choses un peu standardisées, et heureusement, pour notre cerveau. Voilà. Après, nous, on a cette capacité, et heureusement, parce qu'on passe du temps dessus, à se dire tiens je voudrais plutôt cette lime là et l'additionner, même changer. Il y en a qui disent j'utilise deux systèmes différents, pourquoi pas, ça me choque pas.
C'est
voilà
ce que tu fais avec les instruments de prémise en forme.
Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même important, ceux qui font que l'endodontie, de tester les autres instruments, sinon tu restes vieux con sur ta lime, c'est dommage. Et alors moi c'est vrai que j'ai une tactique, c'est que tous les deux ans je me fais une session pendant un mois et demi avec des nouvelles limes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un sas pendant un temps où je sais que je vais tester beaucoup les choses. Et ce qui permet de... Tu vois, quand je travaille justement sur Endodata, j'ai pas le temps de tester des limes en même temps. Tu vois, pas, mon cerveau, il sera pas capable de gérer le stress, de dire tiens, il faut faire ceci, cela. Et puis voilà. Donc j'ai des timings de tests. Donc je pense qu'il faut toujours introduire des nouvelles limes parce que c'est important. Et puis pouvoir discuter avec les copains aussi. Genre, c'est pareil con, si t'es pas capable si t'as pas essayé la nouvelle lime de je sais pas quelle marque,
de rester au bout du
pas,
jour, tu
ouais,
veux
dire. Ouais, la discussion elle est intéressante, tout le monde parle de la lime et toi tu l'as même pas testé. Donc c'est d'introduire des moments de test dans son activité, c'est-à-dire pendant un mois ou pendant trois semaines, je vais tester les nouveaux. Alors tu as l'IDS qui arrive, tu as des nouvelles limes qui vont arriver, ça va être juin, ça va être le bon moment, ils vont plutôt arriver vraiment en septembre, ça va être le bon moment, ils vont peut-être te les filer déjà à l'IDS, de les tester d'abord sur bloc. Et après, très rapidement, sur patient, tu vois, ce qu'on est capable de très rapidement.
Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que les limes, elles donnent en tout cas des sensations très très différentes selon les moteurs qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'une même lime utilisée sur deux moteurs différents vont... Alors je ne sais pas si en termes de performance ça change, mais même si on va régler le moteur, c'est-à-dire vitesse, torque, de la même façon sur deux moteurs différents, on aura des sensations qui vont être très différentes. Est-ce que les torques qui sont indiquées ne sont pas les vraies torques? Est-ce que les vitesses ne sont pas les vraies vitesses? Est-ce que les vibrations qu'on va pouvoir ressentir dans le moteur ne sont parfois que des impressions? Parfois, comme on peut avoir dans un ascenseur ou dans une voiture, il y a des voitures qui vont nous donner l'impression d'aller vite et d'autres moins vite, alors qu'on va à la même vitesse. Donc, je ne sais pas si ça donne des impressions de performance différentes ou des performances effectivement différentes, mais c'est important aussi de dire que quand on va tester des limes, on pourra avoir des sensations qui vont être différentes selon le moteur qu'on utilise. Mmh. Et ça peut aussi parfois expliquer quand on va avoir... alors bon, évidemment, chaque personne a des sensations qui vont être différentes, mais c'est important dans la discussion de dire j'ai essayé telle lime avec tel moteur, parce que c'est pas la même chose.
Et la métaphore de la voiture, c'est très parlant, je trouve.
Hein.
Ça, ouais, mais non, mais c'est vrai. Pardon, la X et puis même les. Ouais, oui. C'est vrai que peu importe ce que l'on. Si on associe la lime à une voiture, bon, ça dépend de la voiture. Après, il y a différents types de moteurs au sein d'une même voiture, différentes pneumatiques, etc. Donc, il y a plein de critères qui vont faire des sensations différentes. Et puis, si on a une vision un peu globale, on se rend compte que pour aller du point A au point B, peu importe la voiture, si on y va de manière sécure, on y va. Quoi.
C'est...
Ouais, mais il y a des voitures avec lesquelles
c'est moins sécure.
La métaphore, très bien choisi, parce que c'est vrai qu'on parle de choisir la meilleure lime. C'est vrai que là, tout à l'heure, on parle un
peu. C'est pas le choix.
Quelle est meilleure?
Comment choisir? C'est-à-dire qu'en fait, comment s'y retrouver?
On pourrait peut-être se recentrer sur quelque chose de factuel.
C'est-à-dire?
Quand tu prends une voiture, tu veux aller d'un point A à un point B. Toutes les voitures, elles arrivent à le faire. D'accord. Après, tu peux dire c'est l'écologie, mais ça peut être aussi la sortie de route, ta tenue. Si tu vas, Donc c'est vrai. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous cherchez? Là, t'as parlé un peu. Mon objectif.
Tu soulèves une bonne question. Quelle est, par exemple
J'ai pas fini.
Très bien. Je t'interromps. Comment tu pourrais répondre? Parce qu'on voit par exemple plein de systèmes qui amènent des diamètres et des conicités complètement différentes. Bon, comment faire le choix là-dedans?
Alors, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière avec l'irrigation. Et donc, c'est le principe de Schiller, c'est-à-dire que tu as une obturation. Et donc, tu vas mettre en forme en fonction de ton capacité à irriguer, à obturer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme il y a les biocéramiques qui arrivent sur le marché, c'est pour ça aussi qu'il y a un changement aussi au niveau des instruments de mise en forme. Où aujourd'hui, avant, on disait qu'il fallait 6% ou 4% avec un gros diamètre. Aujourd'hui, on peut avoir des diamètres plutôt...
Quelle est la poule de l'œuf,
Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, franchement, c'était plus dur d'obturer à chaud.
Oui, mais est-ce qu'on n'a pas des nouvelles obturations parce qu'on a une tendance à vouloir...
Qu'est-ce qui influe sur quoi?
Franchement, je pense que c'est quand même l'arrivée des biocéramiques qui a quand même fait changer aussi un peu... Alors, il y a les ensembles, c'est vrai. Il y a un peu la poule et l'œuf, mais c'est quand même les deux en même temps qui sont arrivés.
Bon, ce que j'entends de tout ça, c'est qu'il faut inclure tous les paramètres.
Exactement. Mais donc, tu as le diamètre et mise en forme. C'est vrai que souvent, c'est les discussions qu'il y a...
Le diamètre et la conicité.
Diamètre et conicité. Mais tu as aussi quelque chose qui a interpellé toute ma génération. Parce que nous, on a appris avec des séquences qui faisaient 40 instruments. Mmh. Et avec des trucs manuels où on se pétait les doigts. Chez Arnaud TP, Dando, c'était incroyablement difficile. Quand arrivait la rotation continue, ça allait beaucoup plus vite. Mais là, qu'est-ce qu'on avait comme dégâts? On faisait des transports. On transportait de façon importante. On avait de la fracture instrumentale de façon très importante. Et c'est vrai que c'est... ces dernières années, les traitements d'alliage et puis même les designs d'instruments, parce qu'on parle de traitements, mais il y a quand même des grandes évolutions sur les designs. On casse quand même beaucoup moins. De façon... c'est rare de casser. Et les transports sont aussi, le transport qu'il soit apical ou au niveau cervical, les risques de stripping, de choses comme ça. L'abrement au niveau du tiers cervical, il est quand même aussi moindre aujourd'hui avec les traitements thermiques qu'on avait avec d'autres. Donc c'est pour ça quand même qu'il y a quel est l'objectif final de mise en forme, diamètre, conicité, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie ces histoires de transport et de fractures instrumentales par fatigue ou torsion.
Tu l'as dit toi-même que ce risque-là aujourd'hui n'est plus vraiment présent.
C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, la technologie aujourd'hui fait que le choix d'une lime a peut-être moins d'importance qu'avant et est étroitement lié aujourd'hui peut-être plus à la conicité et quel type d'obturation tu vas faire. Et donc finalement, les gens ils disent je vais obturer, je vais mettre en forme moindre, faire une mise en forme moins conique pour préserver le tiers cervical parce que risque de fracture et tout ça. Voilà, c'est vrai que le choix est aujourd'hui il est quand même plus simple
qu'avant.
On n'avait pas 36 marques ceci dit avant.
C'était moins la jungle.
Ce
que tu dis avec les limes manuelles, où tu passais 40 limes pour faire ton step back, rundown step back, ça rejoint un peu cette notion de diamètre et de conicité, parce qu'en effet, tu passes plein de limes de manière croissante. Et chose qui a été un peu oubliée avec la rotation continue, le nickel titane, où là, tu as plus de transport, parce qu'au final, ce respect du protocole a été oublié. Si tu restes sur cette notion où tu passes plus d'instruments, tu as moins de risques de fracture qu'avec des limes manuelles.
Tout à fait, Non, c'est vrai que c'est arrivé dans les années 2000, 2010 peut-être, 2010, où ils ont l'arrivée de la réciprocité, et puis tout le monde faisait la chasse au nombre d'instruments dans ta séquence. On a vraiment vécu une baisse du nombre d'instruments. Et c'est en ça que j'ai bien aimé, moi, le Pro Taper, et que je suis resté sur Pro Taper. C'est que moi j'aime bien, c'est justement une conicité différente. Il y a des endroits où j'ai besoin de brosser et d'avoir de la rigidité en haut de ma lime pour justement redresser un petit endroit ou aller enlever des remettre un peu en forme, parce que la mise en forme c'est pas non plus qu'une lime, hein, c'est aussi des fois des ultrasons que tu vas passer, parce que là, un canal n'est pas rond, hein, un canal est ovale, donc tu vas aller nettoyer pour ouvrir un peu lisse un endroit. Donc c'est, je trouve qu'avec justement des multi instruments j'ai meilleur contrôle.
C'est ça. Moi ce que j'aime beaucoup par exemple dans d'autres marques, c'est d'avoir des limes plus flexible, très flexible, même à des grosses diamètres, des gros diamètres,
aussi,
comme des qui restent en 2%, qui nous permettent de mettre en forme des canaux très courts. Et là où d'autres limes très coniques seraient très dangereuses. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour conclure? Tu voulais rajouter quelque chose, Marc?
Oui, surtout, c'est là où on veut aller, c'est l'irrigation, comme disait Baptiste. Et on sait ça dans les études. Je pense à l'étude de Academy 2006, où il faut, de toute façon, il semblerait que pour amener la solution d'irrigation à LT ou LT-2, il nous faut un diamètre et une conicité au minimum de 36% et 35-4%.
Dans les canaux infectés. Ok. Baptiste.
Pareil, une petite conclusion personnelle. C'est, si je dois retenir quelque chose, c'est que Coris nous l'a présenté. On a moins de limites. On est moins limité par l'évolution instrumentale, je pense. Et que personnellement, si j'ai une conclusion en tout cas à retenir, c'est que mon instrumentation doit me permettre une bonne désinfection. C'est comme ça que je la choisirais en fait.
Donc si on doit conseiller quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord répondre à ce principe biologique, hein, et que c'est pas le système qui fait l'endo, c'est d'abord est-ce qu'on répond à ce principe biologique. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, restez aussi sur des marques plutôt sérieuses, en tout cas qui ont fait leurs preuves.
Je sais pas.
Il faut tester quoi.
On peut essayer. Ça dépend si on est courageux ou pas.
Si on aime l'exotisme
pour garder une lime dans son canal.
Et puis voir si ça modifie aussi ou si on doit adapter et si ça correspond aux autres critères, notre technique d'irrigation, notre technique d'obturation, etc. Ça vous va?
Je repensais juste un dernier truc sur les critères de qualité. On parlait justement locaux et tout. On peut regarder déjà juste des fois la lime. Regardez la lime. Regardez comment elle s'enfonce dans le contre-angle. Est-ce qu'on a du mal à la rentrer? Il y a plein de petits critères comme ça qui permettent quand même de voir s'il y a un niveau de finition. En fait, des fois, on se dit qu'on n'est pas capable de voir les niveaux de finition. Il y a certains critères.
On peut s'en rendre compte quand même
des critères de justement le mandrin, comme il est accroché.
Même de la passer dans une filière, hein, ça prend 2 secondes. Ça peut être très intéressant.
Bon, merci. Merci à tous pour ce très bel échange. Je vous dis à la semaine prochaine sur le prochain épisode des podcasts du Lab.
Merci messieurs.
Merci.
De rien, copain.